99.4, l'émission La Prophétie, en ensemble, Inch'Allah, jusqu'à 22h. Donc, l'émission prophétique vous est habituellement proposée par l'association Rencontre et Dialogue. L'association Rencontre et Dialogue, vous pouvez joindre à la maison des associations, Boulevard de la Liberté, 5900 Roubaix. C'est la maison des associations, sinon directement sur les ondes de Pastel FM, Pastel FM 59, j'ai oublié, boîte postale. Pastel FM, boîte postale 222 59 054 Roubaix, CEDEX 01. Donc voilà, ça c'est les coordonnées dans lesquelles, auprès desquelles vous pouvez nous contacter si besoin. Il y a aussi le numéro du standard ici, 0320 73 59 00. Ce soir, a priori, Cheikh Ouna Hassan qui devrait être sur la route. Juste une petite information à donner sur les manifestations qui vont avoir lieu très prochainement. Abdelkader, salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah. Donc, première info, c'est le 12 avril. Donc, a priori, c'est plus samedi. 12 avril à partir de 14h45. Donc, c'est une conférence mensuelle qu'on avait déjà annoncée. Donc, c'est avec la sœur Hala. Ça se passe à la mosquée des Trois Ponts. Donc, la sœur Hala est présidente de la Ligue musulmane au niveau national, responsable de la Ligue au niveau européen et présidente de l'association Amel. Donc, conférence qu'elle va donner sous la thématique des signes de l'amour d'Allah.
Réservé aux femmes.
C'est réservé aux femmes, oui.
Pour cette partie-là.
Pour cette partie, effectivement. Donc, débat, un goûter est organisé. Par contre, juste après, du Maghreb à Al-Aïcha, donc c'est l'imam de la mosquée, c'est l'imam Youssef qui donnera un dors pour tout le monde. Donc là, c'est ouvert effectivement aux hommes et aux femmes. Vos gâteaux sont les bienvenus pour les sœurs qui viennent en tout cas l'après-midi écouter la sœur Hala.
Dimanche.
Donc, Mosquée Bilal, ça, d'accord.
À l'Épaule.
À l'Épaule, oui, effectivement.
Dans le Maghreb Aïcha. Intervention de
Omar
Lasfar.
Voilà.
Donc, ça, c'est dimanche aussi.
Les informations.
Oui.
Par contre, ouais, cet après-midi, il y a eu.
Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, bon, vous savez tous et toutes, l'actualité, on a suffisamment parlé, peut-être pas assez, d'un point de vue politique. Mais, en termes d'information, effectivement, vous savez tous qu'il y a eu, profanation de cimetière de carré musulman. Donc, c'est le cimetière de Notre-Dame de Lorette, qui est pas très loin de Arras, entre Arras et Lens. Lens est un moment d'Arras, c'est un temps loin. Donc, c'est à Ablain-Saint-Nazaire, exactement. C'est un cimetière militaire où sont enterrés un certain nombre de soldats morts pour la France pendant la Grande Guerre 14-18. Et parmi ces soldats, une grande quantité de personnes de pays d'Afrique du Nord, hein, donc ex-pays colonisé par la France, qui a fait appel à la chair à canon pour pouvoir les envoyer au front de la Grande Guerre, et ils sont morts pour la France. Et ils sont enterrés ici, enfin, entre autres, il y en a beaucoup, mais ici, entre autres, dans le Nord, au cimetière Notre-Dame de Lorette. Et donc, pour la deuxième fois, on a eu la même profanation l'année dernière, presque jour pour jour, au niveau des dates. Donc, une deuxième profanation où on a eu des propos injurieux, racistes, islamophobes, antisémites, à l'égard des musulmans. Même la garde des Sorachou d'Adati a été visée, des têtes de cochon, des insultes, enfin bref. Bref, on va pas faire la discussion, vous les avez tous vu les images, donc la communauté musulmane a particulièrement montré son indignation et sa profonde déception et sur cette situation, et aujourd'hui a été organisé donc un rassemblement à ce même cimetière, donc de la part des musulmans après la prière du vendredi. Ici sur Roubaix, trois quarts sont partis de Roubaix. On va y revenir là-dessus au cours de l'émission. Juste pour vous dire que, bon, déjà pour rappeler un petit peu comment ça s'est organisé et le pourquoi de cette action. Et on a prévu a priori priori en direct avec Ahmad Lasbal, justement, qui est recteur de la mosquée de l'île Sud, qui était sur les lieux aussi, qui a fait un petit rappel, un discours là-bas, et on a célébré une petite prière pour les personnes qui sont décédées là-bas. Donc il nous appellera en direct au coup de 20h30, justement, pour nous faire un petit rappel et un bilan de cette journée, le pourquoi de cette action. Bien, sans plus attendre, à l'accoutumée, on va s'opérer à l'écoute de quelques versets du Coran. Surat Taha, il me semble, de Cheikh Abdelbassad Abdelsamad. Donc, en attendant, fin de pause, on devrait prendre le Cheikh Ahmad Asfad et Cheikh Hassan Hussein qui devrait pas tarder à arriver, Inch'Allah. A tout à l'heure, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sallam. Donc, de retour sur les ondes de Passé FM, après cette récitation de Cheikh Abdelbassad Abdelsamad sur le terrain. Cheikh Hassan, salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa
sallam. Bienvenue à toi. C'est un petit bout de temps qu'on s'était vu. Juste avant que tu venais, que tu viennes, on a juste relaté le
rassemblement.
Le rassemblement qui s'était organisé dans le cimetière militaire Notre-Dame de Lorette, c'est pas loin de Darras. Effectivement, il y a eu toute une série de tombes qui ont été profanées, on l'a dit, les médias ont relaté les faits. Ce qui est scandaleux, c'est déjà l'acte en lui-même, bien entendu, c'est que c'est la deuxième fois, hein, puisque presque jour pour jour, il y a eu une situation similaire l'année dernière. Les responsables de ces actes ont été inculpés à quelques mois de prison. Voilà, ça n'a pas empêché que d'autres, alors on ne sait pas si c'est des actes un peu isolés ou si c'est une organisation derrière, enfin bref, toutes les possibilités sont ouvertes, mais en tout cas la réalité fait que on a encore un certain nombre de tombes qui ont été profanées. Bien au-delà du fait que ça soit en termes de symbole, c'est à travers les morts qu'on touche les vivants, hein. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est divulgué, un message raciste, islamophobe, à l'égard d'une communauté particulière en France, qui est la communauté musulmane. On ne veut pas vous accepter. Quand bien même vous avez sacrifié vos âmes pour construire notre pays, on n'en a aucun compte à vous rendre, ni aucun remerciement à vous donner. Bon voilà, il fallait le faire parce que vous l'avez fait, il fallait le faire. Maintenant rentrez chez vous. Et c'est un peu ça le message, moi, tel que je le comprends. Donc je ne sais pas, on va relater quand même ce fait-là. On attend aussi j'avais dit à peu près vers 20h30, mais c'est la prière du mardi. Cheikh Ahmad Lasfal, qui est recteur de la mosquée de l'île Sud, devrait nous appeler pour 21h, Inch'Allah. Donc, lui-même qui était sur les lieux de ce rassemblement. Donc, en fait, le principe, c'était aujourd'hui de profiter de la salat Jumu'ah, la prière du vendredi, pour que, à la fois, les imams fassent un rappel, voire un prêche sur la question, et solliciter l'ensemble des fidèles d'aller se rassembler précisément vers 16h à ce cimetière-là. Donc plusieurs quarts sont partis de différentes mosquées de la métropole. En tout cas, nous sur Roubaix, il y a eu trois quarts qui sont partis. Donc le rassemblement s'est fait aux alentours de 16h précisément. Beaucoup de personnes sont venues par car ou par voiture. C'était relativement solennel et simple. On était tous autour du carré musulman. Alors je dis du carré, c'est un grand carré, hein, c'est une très très grande surface. Le cimetière militaire est immense, hein, il y a 100 000 tombes à peu près, donc bien sûr il n'y a pas 100 000 tombes musulmanes, mais 100 000 tombes d'une manière générale, bon, une grande partie, peut-être, je ne sais pas, très grossièrement 400, 500 tombes musulmanes peut-être. En tout cas, on s'est mis autour du petit carré qui a été profané. Et voilà, donc on a fait un rappel sur le rôle que ces personnes avaient joué pour défendre la France, pour la reconstruction de la France. On rappelle qu'ils sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont été dépêchés par les autorités françaises directement des colonies d'Afrique du Nord. On les a amenés ici au premier front, ils ont combattu pour la France, bon gré mal gré. Et ils sont morts pour la France, donc c'était ce qui avait été rappelé. On a rappelé aussi qu'on avait notre devoir de s'affirmer en tant que citoyen à part entière de cette société, de ce pays, qu'on avait à construire comme nos ancêtres l'avaient fait, qu'on était dans la continuité de la construction de ce pays, et à la fin, on a fait quelques invocations en français et en arabe pour le salut et la paix de leurs âmes. Et voilà, et après on s'est dispersé, chacun est passé à travers les tombes pour regarder un petit peu les différentes tombes, reconnaître éventuellement quelques noms. Parfois il n'y a pas de nom dessus, des tombes soldats inconnus, il y en a beaucoup. Parfois c'est juste un prénom qui est relaté. Et voilà, et après on est rentré ici sur Roubaix, d'autres sur Lille, Mons, Villeneuve d'Ascq, bref, toute la métropole s'est mobilisée. Voilà, donc c'était pour l'appel qui avait été fait pour ce grand rassemblement. Donc je ne sais pas ce que ça sollicite en vous par rapport à ces événements, mais en tout cas, moi ce que je peux déplorer, c'est aussi la part d'intervention des autorités publiques et politiques, quelques timides interventions ci et là. Je suis un peu timide. Bon, chef de l'État s'est exprimé un petit peu tardivement, précisant qu'éventuellement il passerait ici le 24 ou 25 avril. Bon, pourquoi pas au mois de juillet, quoi. Je veux dire, on a vu dans d'autres circonstances, dans d'autres situations où on avait quelque chose de personnes qui étaient dépêchées sur les lieux presque aussi. Pour une personne hyper active comme le président de la République, on le voit sur tous les fronts, on a semblé avoir une baisse de tonus cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est anodin ou est-ce que c'est volontaire, on ne sait pas. On ne va pas faire un procès d'intention, mais en tout cas, on constate l'effet du moins.
C'est vrai que ce type d'action d'outrage a tendance vraiment à se banaliser. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que ça fait un an jour pour jour où effectivement on a pu avoir des outrages sur les tombes au niveau de la profanation. C'est quand même 149 tombes. Et c'est vrai que comparativement, il y a quelques années, je dirais il y a plus de 10 ans, il y a eu 10-15 ans, il y a eu Carpentras. Enfin, moi je me souviens, c'est quand même un peu plus jeune.
Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans même. Et c'est vrai que ça, au niveau des médias, ça avait fait un pataquès. Et heureusement, parce que des tombes juives à Carpentras ont été profanées. Et on avait parlé, ça a parlé partout. Et des témoignages de parents. Et c'est vrai que ça avait ému toute la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 20 ans après, Carpentras, c'est profanation de tombes. Et alors aujourd'hui, c'est pratiquement 149 tombes qui ont été profanés, et a priori ça passe comme une lettre à la poste. Et même au sein de la population musulmane, on a vraiment le sentiment que les gens se sont habitués à ce type d'outrage.
Ouais, c'est là où il y a le danger. Je veux dire, à partir du moment où on ne s'aimait plus pour ce genre d'acte odieux, je veux dire, on arrive, comme tu dis, une banalisation des faits. Non, je pense qu'il faut toujours être vigilant et manifester son mécontentement et son indignation. Parce que, que ce soit pour la communauté musulmane ou pour d'autres communautés, de manière générale, mais bon, tout acte raciste, islamophobe, antisémite, ou bref, sont inacceptables. Et là, effectivement, tu parlais de la communauté musulmane, on ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas mobilisés, on en a parlé, mais effectivement, pour une population musulmane qui est énorme ici dans la métropole, c'est dommage qu'on n'ait pas eu davantage de, je dis pas qu'ils soient pas indignés, mais d'implication. Alors, on est peut-être rentré aussi dans une habitude de voir ce genre d'événements qui fait que la vie continue. On en prend plein par tous les côtés, mais bon, la vie continue. On essaie de se battre à notre niveau. On est parfois blasé, peut-être, je sais pas, moi, on s'essouffle. Cheikh Rana Hassan, je pense que.
Oui, on s'essouffle, mais surtout on est un peu pessimiste. On se dit parfois que, écoutez, ça ne changera pas grand-chose, le fait de se rassembler, parce que le problème n'est pas la profanation des tombes, c'est la profanation même des vivants. Hein? On s'est attaqué à des morts qui sont incapables de se défendre, de réagir. Et on s'attaque depuis presque maintenant 30 ans à des vivants. Il faudrait voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une recrudescence d'actes islamophobes, c'est ça ?
Mm-hmm. Bien sûr.
Ça s'explique. Bon, il y a toujours des imbéciles racistes. Hein. Mm. On n'est pas les premiers à subir ce racisme. Ils sont minoritaires. Après, vous avez des gens qui ne sont que des victimes. Des victimes de cette propagande anti-musulmane, anti-islamique, qui martèle les esprits de nos concitoyens non-musulmans, voire même musulmans. Comment voulez-vous que les gens ne réagissent pas de cette manière lorsqu'on leur rabâche matin, midi et soir que l'islam est un danger pour la République, un danger pour l'Europe, pour la culture européenne, un danger
pour l'identité.
Pour l'identité européenne, comme ils disent. Pour ça, il ne faut surtout pas intégrer la Turquie. C'est trop dangereux. Secondo, gens qui ont dit que derrière tout musulman, il y a quoi ? Il y a un terroriste potentiel qui peut d'un moment à l'autre être réveillé par une télécommande qui se trouve à l'étranger. Les cellules dormantes d'Al-Qaïda. Comment les reconnaître ? Après, certains sont allés jusqu'à les identifier en disant ils ne sont pas toujours là où l'on pense, c'est-à-dire dans les mosquées. Ces gens-là ne fréquentent plus les mosquées, parce que dans les mosquées, il y a des gens qui travaillent pour les repérer. Donc ils sont discrets. Ils n'ont plus de look, d'apparence islamique. C'est-à-dire, ils ne portent pas de longues robes. Ils essaient même voir peut-être de diminuer leur prénom. Bref, tout signe qui pourrait les identifier en tant que musulmans chez eux est à proscrire et à bannir. Ça peut être votre voisin. Votre voisin qui est souriant, qui est gentil, hein, qui vous dit bonjour, voire même qui vous aide, qui vous invite, qui ne vous parle surtout pas de religion. Donc, il y a une psychose, en fait, qui ne cesse de se développer dans notre pays. Et qui est due à quoi ? Qui est due à la folie de certaines personnes qui pensent, j'espère que ce n'est pas profond, c'est juste passager, que l'islam est réellement un danger. Ils sont encore dans l'esprit des croisades. Au Moyen-Âge, où la religion chrétienne est en danger, le monde chrétien est en danger, donc il faut prendre les armes. Si avant, il fallait les combattre au nom de Dieu et entrer au paradis si on tuait les sarrasins, aujourd'hui, il faut les combattre au nom de la laïcité, parce qu'ils sont contre la laïcité. Au nom des droits de l'homme, parce qu'ils sont contre les droits de l'homme, au nom de la liberté, tout simplement. Il faut leur imposer notre mode de vie, notre mode de pensée, même par la force. Des gens qui entendent ce discours, pire, des gens qui voient des images, des images qui ont pour objectif de déclencher des mécanismes de haine, voire même peut-être de la vengeance auprès de certaines personnes. Je pense que ce qui s'est passé à Notre-Dame de Lorette, ce qui s'est passé encore aujourd'hui, je crois dans le Doubs, une mosquée a été profanée. Laissez les lieux de culte, ce sont des murs. Laissez les morts, ils sont enterrés. Je ne pense pas qu'ils ont entendu les insultes, ni qu'ils ont été choqués par ce qui est écrit sur leur tombe. Mais moi, je parle des vivants qui sont agressés tous les jours, vous et moi. Moi qui suis regardé du coin de l'œil, mon épouse, ma fille, ma mère, qui est agressée par des regards qui sont perçants, parfois des propos, plein d'injustices que l'on subit. Beaucoup de gens nés en France, beaucoup de gens qui décident d'être des Français à part entière, qui font des demandes de naturalisation, n'ont pas gain de cause. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne sont pas intégrés. En bon français, parce que ce sont des musulmans orthodoxes, comme ils disent, des musulmans pratiquants. C'est un délit, aujourd'hui, que d'essayer d'être français et musulman en même temps. Tout ça fait que des gens réagissent de cette manière. S'attaquent au cimetière, s'attaquent à des choses qui sont fortes, hein, parce que s'attaquer quand même à des gens qui sont morts pour la France, pour libérer la France de la tyrannie étrangère, ça n'a pas, je veux dire, une explication rationnelle. Au contraire, on devrait s'attaquer à ceux qui ont colonisé la France. On a fait la paix avec l'Allemagne et avec les Allemands, n'est-ce pas ? C'est le grand amour, c'est l'Union européenne. Ce qui est bien en soi, hein. Je suis pour ce rapprochement, etc. Mais ceux qui sont morts pour la France sont devenus des ennemis. Et leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants sont des ennemis potentiels. je sais pas, on dirait que dans notre société, on ne peut pas vivre sans ennemis en permanence. Alors que ce serait beaucoup plus sage de faire passer le message suivant. La France, comme tous les pays du monde aujourd'hui, est un pays où vous avez des gens qui ont des convictions différentes, politiques, philosophiques, religieuses, et notre monde moderne, et c'est ce qui fait son charme, est un monde de tolérance, d'acceptation de l'autre avec sa différence. Donc je pense qu'il serait beaucoup plus sage d'arrêter cette propagande anti-islamique. Il y a un fou en Hollande qui est en train de développer une islamophobie violente et qui est allé jusqu'à demander l'interdiction du Coran en Hollande, pas seulement dans les lieux publics, s'il existe dans les publics, dans les bibliothèques, mais même dans les mosquées. Pourquoi ? Pour préserver les musulmans du fanatisme, car le Coran enseigne l'intégrisme et le fanatisme. Ça nous fait rire, mais il a des partisans. Sa voix est entendue par beaucoup de monde. D'ailleurs, il a fait un petit film d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes, qui est un vomi. Et comme les autorités hollandaises sont assez sages, business is business, la réelle politique n'a pas pu être diffusée dans les chaînes publiques par crainte d'une réaction et d'un boycott. Donc c'est diffusé sur Internet. En tout cas, c'est toujours diffusé. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas interdit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter à notre société si ce n'est que la division, si ce n'est que la haine? Donc, ce qui s'est passé à Notre-Dame de Lorette ne peut être que condamné par tout le monde. Mais ce qui se passe au quotidien, l'islamophobie ambiante, la crispation que l'on crée à l'égard des musulmans, à mon avis, est encore beaucoup plus grave. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est ça qu'il faut condamner. À travers quoi? À travers les échanges, à travers les discours, à travers les rencontres, etc., etc. Maintenant, il ne faut pas que les musulmans restent les bras croisés. Hein? Parce que s'il y a le feu chez le voisin, si on ne se coalise pas pour l'éteindre, le feu va arriver un jour ou l'autre dans nos demeures. Aujourd'hui, il y a eu le feu dans le cimetière. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts quant à ces personnes qui sont enterrées. Mais demain, il y aura le feu dans nos maisons. Il y aura le feu dans nos mosquées, tout simplement. S'il n'y a pas une mobilisation, s'il n'y a pas une condamnation unanime, ça nous tombera sur la tête, dans les plaies à Dieu, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que l'histoire contemporaine est là pour nous rappeler qu'il y a 60 ans, c'est comme ça que ça a commencé. Hein? On s'est focalisé, on a stigmatisé une partie de la population française, et puis tout doucement, des actes odieux ont été commis jusqu'à ce que le pire ait vu les jours. L'élimination physique, après l'élimination spirituelle, intellectuelle, etc., etc. Et je pense que là, on est en train de tester cette communauté. On la teste pour voir son degré de réactivité. Quel est l'objectif de publier à nouveau des caricatures? On les a publiées une fois. On a vu ce que ça crée comme réaction et comme dégâts. On remet une deuxième couche. Ah, ils ont moins réagi. On va peut-être en mettre une troisième. C'est bon. Encéphalogramme plat. Donc on peut commencer maintenant à une seconde phase d'extermination, après la première qui est l'extermination spirituelle, l'extermination intellectuelle, psychologique de cette communauté. On va passer à l'extermination économique. D'accord ? Donc, interdit d'employer, quoique ça, déjà, ça existe déjà, mais peut-être que là, ça sera de manière plus prononcée, plus organisée. Donc, après cette phase, on va passer à une autre phase. Maintenant, ça sera l'extermination physique, tout simplement. Et ainsi de suite, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne vais pas faire de catastrophisme, mais... il faut réagir, il faut que notre réaction se fasse entendre. sinon ça va être regrettable dans quelque temps. Et je pense qu'il ne faut pas attendre uniquement que les autres réagissent. Si nous les musulmans nous ne réagissons pas, je ne vois pas pourquoi les autres réagiraient. Quoique les autres doivent réagir.
Bien sûr.
Mais si les premiers concernés ne bougent pas, quoique tout le monde devrait être concerné.
Mm-hmm.
Hein, puisque si on touche un musulman, on touche à la France. Voilà.
0-3-1-73-59-00 si vous voulez réagir, n'hésitez pas, hein, 0-3-1-73-59-00 par rapport à cette situation. Falid, une pause de 2 minutes et on devrait reprendre cher Amal Aspa qui devrait intervenir. Donc par rapport à la situation, le rassemblement qu'il y a eu, fais-moi signe une farine parce que je t'entends pas. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui soit au téléphone. Ah, allô.
Allô, oui.
Oui.
Salam alaikum.
Ouais, comme ça.
Donc effectivement, je veux dire, avant moi, en tant que musulman, c'est tout à fait, je veux dire, surpris de café. Parce que bon, bah, s'attaquer, c'est vraiment des morts, c'est vraiment une grande lâcheté.
Oui.
Mais ce qui est, c'est vrai qu'au niveau de notre communauté, je pense surtout au niveau des villes, c'est vrai que bon, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire parce que en 2005, lorsque la mosquée de Ville a été fermée, vendue, on s'est trouvé, c'est-à-dire l'immeuble par les services de la ville de Lille.
Oui.
On a essayé de faire bouger tout le monde, on a essayé, c'est-à-dire de se mobiliser, on était voir les principaux acteurs de cette communauté.
Mm-hmm.
Croyez-moi qu'il n'y a personne qui a réagi, en fait. Donc là-dessus, on demande à quoi ils servent.
Mm-hmm.
Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on n'est pas, il n'y a pas de solidarité. Lorsque justement on représente cette communauté, c'est comme un syndicat, on doit être proche et fidèle et agir à tout moment. Alors si ces gens-là occupent ces postes et eux-mêmes n'exercent pas leur fonction,
mm-hmm.
je pense que ça ne va jamais marcher. Voilà.
Vous êtes sans doute un responsable de cette mosquée qui a été fermée.
Oui, exactement.
C'était dans le Vieux-Lille, c'est ça?
Oui.
Juste une question, hein, si vous permettez, c'est peut-être pour apporter des réponses. Et vous êtes français.
Oui.
Non. Est-ce que depuis cet événement, vous avez essayé de passer à une vitesse supérieure dans votre protestation, votre contestation, en intégrant le monde politique, parce que vous savez très bien que la décision a été purement politique, pour justement changer les choses de l'intérieur? Parce que moi, je pense que notre problème à nous, communauté musulmane, c'est que on se dit français, mais on ne vit pas encore comme des Français. On s'auto-marginalise.
Bah, écoutez, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on est dans un pays, je veux dire, laïque. On est dans un pays de droit. Hein.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, vivre français, c'est-à-dire moi, bon, un musulman, aujourd'hui même un Français qui se convertit à l'islam, lui-même, d'appliquer les règles. On est d'accord là-dessus. Donc chacun, même quand on dit dans le droit ou le pénal, a le droit de prier, de son propre culte. Donc aujourd'hui, pourquoi être français, c'est quoi? C'est consommer de l'alcool? C'est aller manger, c'est faire tout ce qui est contraire à l'islam? Non, aujourd'hui, non, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a essayé de soutenir cette mosquée, c'est Sabilillah. On essaie de faire réagir les principaux acteurs, des gens qui se disent, voilà, je suis le représentant des musulmans.
Mm-hmm.
Oui, mon frère. Mais tu étais où quand ils ont fermé la mosquée? Il y a certaines personnes aussi qui se sont retournées contre nous, qui ont condamné nos actes. Pourtant, c'était des actes, je vais les dire vraiment, en toute citoyenneté. C'est-à-dire qu'on a mis la pression, on a fait un appel à voter contre le maire. On a essayé, c'est-à-dire tout ça, c'était fait pour essayer d'avoir un rendez-vous, pour avoir des explications là-dessus, étant donné qu'on avait la porte fermée. Donc nous aujourd'hui, en tant que musulmans, quand on regarde aussi le monde vivant, eux ils sont plus solidaires que nous, ça d'ailleurs tout le monde le sait. Ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on s'est attaqué? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a personne qui va réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme les pays arabes. Aujourd'hui on va attaquer un pays arabe, on va utiliser les autres pays arabes, ils vont se mettre avec les occidentaux, puis on va être éliminés un par un. Donc c'est ce qui se produit aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas solidaire,
mais avant d'atteindre ce degré de solidarité, il faut bien agir. Et tout ce que vous avez fait, c'est à votre honneur. Vous avez fait le maximum de votre part, c'est très bien. Maintenant, le conseil que je vous donne, moi, c'est de vous intégrer au tissu politique de votre ville pour pouvoir justement, un, vous faire connaître et revendiquer vos droits à travers justement ces relations que vous allez avoir avec les gens qui sont influents, les gens qui font la pluie et le beau temps dans notre ville. Parce que le problème pour justement condamner ce qu'on estime être des injustices, c'est que si on attend, hein, et on pose des conditions, qu'on soit tous solidaires, qu'on soit tous unis, que
nos pseudo-responsables soient à la hauteur. On va rester encore des décennies dans cet état de léthargie. Je pense que, en tant que personne, et vous êtes quelqu'un de conscient, vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un de mature, dans le sens où vous vous sentez responsable et impliqué pour le bien-être de cette communauté afin qu'elle jouisse de ses droits, je pense que changer votre fusil d'épaule, au lieu d'essayer de tirer des gens qui ont du mal à bouger, libérez-vous de ce fardeau et volez de vos propres ailes en essayant de devenir un acteur, un citoyen acteur dans votre quartier, dans votre ville, et vous verrez que vous allez résoudre beaucoup plus de problèmes de cette manière qu'en attendant que les musulmans soient à la hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Non, j'ai tout à fait compris.
Mais
d'ailleurs,
beaucoup de problèmes se résolvent de cette manière. Si vous avez un bon carnet d'adresses, si vous avez les bons numéros de téléphone, si vous avez les relations avec les personnes qu'il faut, en qui vous avez confiance et qui ont confiance en vous, et si vous savez être un bon avocat pour défendre votre cause là où il le faut, d'accord, pour être entendu par les personnes qu'il faut, vous verrez que vous allez faire des pas de géant.
Bon, Inch'Allah, nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre communauté, je veux dire, soit protégée dans un premier temps, soit pas attaquée, je veux dire, à longueur de journée. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'État musulman, celui qui ne se préoccupe pas des problèmes des musulmans.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une grande responsabilité devant Dieu. Ces gens-là aujourd'hui, qui se disent représentants des musulmans, en ont aussi encore plus grande que la mienne. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va faire la paire des choses. C'est-à-dire que c'est vrai, je respecte la République, on n'est pas là en tant que... Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux que quand on voit un musulman avec une grande barbe, malheureusement, il y a des gens qui disent que c'est un terroriste. Non, faux, on a une très bonne image, loin de là. Et tout le monde le sait d'ailleurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, si on est de notre communauté, comme sur les caricatures du prophète, moi j'ai vu dans toutes les villes, enfin, dans une partie des grandes villes, tout le monde a bougé dans le monde entier. J'ai regardé sur l'île, j'ai vu personne bouger, j'ai entendu, mais ils sont où ces représentants? Il n'y a personne qui a été défendre la cause du prophète. Donc, si dans un premier temps, c'est bien beau des fois de faire des grandes prières de l'Aïd en invitant les politiques, il faut en faire autant le jour où la communauté est visée, c'est-à-dire rassembler tout le monde, les envoler aujourd'hui, on est contre ce que vous faites, on proteste. Voilà pourquoi et voilà pourquoi. Et je pense que là-dessus, quand ils vont voir, d'ailleurs, ça serait bien qu'on a raison. J'ai même dit de ce côté-là, au niveau de la mairie, bon, ils nous ont bien dit qu'on était efficace parce qu'on n'a causé aucune cause à personne, on n'a atteint personne, on a défendu notre cause. Donc je pense que là-dessus, ils vont comprendre qu'on est des gens assez intelligents, qui savent très bien fonctionner, et puis qu'on appelle, bon, ils nous poussent à l'erreur, mais non, on ne fait jamais d'erreur, bravo, bien sûr.
Merci, mon frère. Ce que tu dis, allez, on ne peut que le partager, mais je voudrais quand même te faire une remarque, c'est que les gens dont tu parles, et que tu dis qu'ils sont les représentants, c'est faux, mon frère. Hein.
Non, mais attention, c'est des gens qui se disent représentants.
Non, je vais me faire l'avocat du diable, si tu permets. Il y a un organisme qui est censé représenter les musulmans au niveau national et au niveau régional. Au niveau régional, ça s'appelle le CRCM, le Conseil représentatif du culte musulman. Donc, une instance qui est là pour défendre le culte musulman. Il y a eu des élections, donc la mosquée de l'île sud, et qui a à sa tête monsieur Amar Lasfar, la Ligue islamique du Nord, ne représente pas les musulmans officiellement ni officieusement. Ceux qui ont été élus démocratiquement pour représenter les musulmans, ce sont des responsables du CRCM.
D'accord.
Et la Ligue islamique du Nord ne siège pas dans le CRCM, du moins. Il y a eu des élections, mais malheureusement, il y a eu une coalition entre deux tendances contre, justement, la liste qui était dirigée par la Ligue islamique du Nord. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Ligue islamique du Nord n'est pas responsable de la communauté musulmane. Elle est responsable à son niveau, au niveau local. Elle fait ce qu'elle peut. C'est pas parfait, mais au moins elle fait ce qui est de son devoir, alors que le CRCM, si je peux apporter une critique, est encore loin de sa responsabilité.
Moi personnellement, hein, je vais répondre à votre question. Moi, en tant que musulman, même si je ne suis pas aujourd'hui un représentant, c'est-à-dire même un président, on va dire, de mosquée, un responsable, le jour où j'apprends qu'une mosquée est en danger, en grande difficulté, moi, en tant que musulman devant Dieu, la première chose que je vais faire, c'est aller voir sur tout ce qui se passe, apporter tous mes efforts, toutes mes idées, et là-dessus, justement, essayer de se poser le problème. Il n'y a pas besoin, écoutez, je dis un musulman, on n'a pas besoin d'être nommé et d'élu. On a l'impression, déjà le sacré, malheureusement, c'est vrai, c'est bien beau. Alors j'ai posé la question avec Adam Roussod, j'ai dit, il est où le siège? Il n'y a pas de siège de sacré. Alors, non, attendez. Je pense qu'aujourd'hui, une grande communauté comme la nôtre n'a pas un siège, un endroit où les musulmans peuvent écrire, ou peuvent téléphoner, ou peuvent intervenir.
Et oui, malheureusement, mon frère.
C'est malheureux.
Malheureusement, c'est malheureux. C'est notre bassesse. Je vous invite à participer aux élections du CRCM qui auront lieu au mois de juin, Inch'Allah, pour essayer de changer les choses de manière démocratique.
Inch'Allah.
En tout cas, je salue en vous votre souci vis-à-vis de votre communauté.
Merci bien. À vous demain aussi.
Merci pour votre appel. Il semblerait qu'il y ait une autre personne qui soit en train de convaincre un baccalauréat. C'est extrêmement incroyable. Allô.
Oui, bonsoir.
Oui.
Excusez-moi, j'ai l'habitude de parler.
Allez-y.
Moi, dès qu'on me laissait moi m'exprimer, mais il ne s'agit pas de moi. Je vais m'adresser à Hassan, parce que j'ai sous mes yeux là. Al-Tujjal Yahkamoun Al-Alam. Bon, j'ai une revue, je ne vais pas la nommer tout de suite. Si vous voulez, je vous donne les références, si vous voulez. Je vais aller directement au but, parce que j'ai suivi le débat. Nous, on n'a pas de clergé. Parce qu'on fait l'Ikhtilaf Rahma. L'Ikhtilaf Rahma. Donc il ne s'agit pas de problème de personne, il s'agit de sauver notre âme d'un système qui veut nous imposer ce que Dieu ne nous impose pas. Comment on va faire? Ma réaction, c'est les cimetières militaires. Alors j'espère contribuer à vous faire comprendre. Si vous voulez me poser des questions personnelles, Je vous dirai comment je m'en sors dans ce pays. J'utilise les mêmes armes. Je suis musulman de conviction profonde, mais je le dévoile pas. Ou Hassan, parce que moi je n'ai pas la connaissance, c'est pas ma profession. Je vous pose la question et après vous m'écoutez, parce que c'est une question en français. La bataille finale effroyable s'achèvera par l'écrasement de l'ennemi de l'islam. C'est une revue que je suis en train de regarder de sous mes yeux. Et ils nous accusent, parce que lorsque les Tujjal vont commander le monde, parce que l'islam, c'est la maladie de l'apocalypse. D'accord? Je te donne un petit peu le sous mes yeux, là. Je regarde. Alors, ma question à Hassan, avec tout le respect que je te dois, parce que j'ai un respect profond pour ceux qui tiennent le savoir. Mais dans notre profession de foi, on n'a pas de clergé, et c'est ce peuple-là qui n'ont pas compris. Ça veut dire que l'Occident, je le dis tel que je le pense, ils ont tué Dieu, mais aucun homme ne pourra incarner Dieu, quel que soit ce qu'ils veulent faire. Je suis un homme aussi comme eux, mais je suis incarné par le devoir, mais en même temps par l'esprit, que l'islam, c'est la paix. Alors notre problème actuellement, pardonnez-moi ma réaction, elle est un peu brutale. Si, pour ne pas être lent, j'assume ce que je peux dire après, je vous écouterai, parce que la question s'est écrite dans, si vous voulez, je vous donne les références après, parce que je ne vais pas faire la publicité, parce que je suis abonné. Si c'est le cas, Dieu s'acharne sur les mécréants, mais nous, on est des hommes. On n'a pas besoin de justifier, même à cette république, que j'incarne par ma citoyenneté, qui n'ont pas le droit de nous juger sur nos apparences, parce que, d'après ce que je sais, ils ont tué et coupé les têtes aux privilégiés de race, de sexe, de religion, tout ça. Là, ce qui me rend un peu fou, pardonne-moi, je le dire, pourquoi ils ont oublié que la guillotine, c'est Badinter qui l'a abolie en 1980, qui coupait les têtes pour ne pas incarner la personne sur sa race, sa couleur, son sexe. Voilà, ça c'est une question que Dieu va leur faire prouver. Mais entre hommes, pardonne-moi Hassan al-Ham, si vous me comprenez, répondez à parce qu'il y a une question dans, si vous voulez que je vous donne la référence, هل الدجل يحكم العالم؟ Si c'est le cas,
j'ai compris votre question.
Mais vous fatiguez pas, je suis visé même, je vous le jure, par des mois Hassan, parce que j'ai un grand respect, parce que je suis camouflé. Ça me fait trop mal qu'on vise mes frères et sœurs, parce qu'ils montrent la mosquée. Moi, je vous le dirai un peu plus tard, je montre autre chose, mais je suis touché. Ça me fait tellement mal, mais je crois en Dieu, mais j'assume ma chair. Mais réponds-moi s'il te plaît Hassan Al Tujjal, parce que je crois que pour les Européens c'est un problème psychiatrique, où je suis pas en train de devenir dingue.
Merci pour votre appel. Donc 21h10, alors par rapport à l'intervention,
d'abord pour que les gens comprennent, voilà, Dajjal en arabe c'est l'imposteur. C'est ce qu'on appelle en Occident l'antéchrist.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, vers la fin des temps, un des signes de l'apocalypse, de la fin du monde, c'est que justement il y aura l'apparition, alors d'un homme, les savants sont très divergents quant à sa nature, mais en tout cas qui a des pouvoirs surnaturels que Dieu lui a octroyés, parce qu'il sera une épreuve pour les êtres humains, donc qui va justement créer le désordre sur terre et qui va éprouver les gens, etc., etc. C'est toute une littérature qu'on ne peut pas développer parce que ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Donc, la question que posait notre frère, c'est est-ce que cet antéchrist aujourd'hui dirige le monde ? J'ai pas de réponse, tout simplement, parce que je ne connais pas l'avenir ni l'invisible. Tout ce que je sais, c'est que le Messie Dajjal apparaîtra de manière claire et précise à un moment donné de l'histoire de l'humanité, au retour du Christ, le vrai Christ, Issa alayhi salam, et que ceux qui auront la vraie foi suivront Issa ibn Maryam, et ceux qui seront égarés, s'égareront, suivront le Messie Dajjal, le faux Christ. Et nous, ce qui nous est demandé, c'est de nous préparer spirituellement au cas où on devrait être vivant ce jour-là. Bon, je vous rassure que c'est encore loin et qu'on disparaîtra bien avant, mais admettons que notre préparation spirituelle est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de réciter la sourate la grotte tous les vendredis, voilà, pour être protégé du Masihid Dajjal. Il nous a aussi demandé dans nos prières, pendant le Tashahhud, à la fin du Tashahhud, de demander à Dieu la protection contre plusieurs choses, et parmi ces choses, wa inna a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ça quant à cet épisode de l'histoire de l'humanité, et essayer de faire des efforts pour purifier nos âmes nous-mêmes, pour ne pas être source de malheur à notre entourage, pour être au contraire des gens qui rayonnons avec nos paroles et avec nos actes. Je pense qu'il faut aller au concret, il faut aller à des choses qui sont simples et accessibles, mais ce sont elles qui font le charme du musulman sur terre aujourd'hui.
Farid, calme-nous quelques petites pauses, alors, et on se retrouve tout de suite après, Charles. On entend le coup de téléphone de Amana Sacha, ça m'a quand même. Après ces quelques versets du Coran, on reprend le cours de l'émission, donc 20h-22h, l'émission La Prophétie. Il est 21h passé de quelques 17 minutes, en ensemble, Charles, jusqu'à 22h. On relatait l'effet de profanation de cimetière de Notre-Dame de l'Oref. J'avais un peu le même. On attend le coup de téléphone, mais je pense qu'on l'a à l'antenne.
Il est avec toi, Omar. Hein?
Ah, Omar, salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatullah.
Allah
yabarak fik, alaykoum salam.
Donc, bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Donc, Omar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île sud, hein, rue des Marquis à Lille. On t'écoute. Hein, on a relaté un petit peu le rassemblement qui a eu lieu cet après-midi au cimetière militaire. On a relaté les différents faits qu'il y a eu, profanation de ce cimetière et le pourquoi de notre rassemblement. Mais on voulait avoir de vive voix un peu l'explication de ton explication un petit peu, ton sentiment vis-à-vis de cette situation. On est tout oui.
Bon, mon explication, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bon, elle est la même que partagée par vous, par tous les musulmans de la métropole, de la région et les musulmans de France. Aujourd'hui, nous vivons un climat malheureusement malsain, Moi, j'en veux pas trop. Il faut dire à ces imbéciles qui sont devenus la nuit pour empêcher le, pour déranger le sommeil éternel, le repos éternel de nos anciens soldats. Mais j'en veux surtout au climat dans lequel on se trouve aujourd'hui, en France et en Europe, donc un climat islamophobe, un climat de racisme, d'exclusion. Et voilà, donc dans ce contexte-là, c'est vrai, donc la piste Skinhead a été avancée à plusieurs reprises. Mais moi, j'en veux pas trop aux Skinhead, mais j'en veux à ceux qui ont créé le climat, ce climat, à ceux qui ont commencé par insulter le prophète, parce que il faut dire que au-delà de la profanation, une profanation d'une tombe, il est scellé, donc il doit être dénoncé. Mais quand il s'agit d'écrire sur des stèles, écrire des insultes du prophète, alayhi salatu wassalam, des insultes des musulmans de l'islam, donc c'est une profanation conjuguée avec du racisme et avec de l'islamophobie. Et bien ceux qui ont commencé il y a plusieurs mois à insulter le prophète à travers notamment l'affaire des caricatures, à travers le film de la discorde, de l'Fitna, ils sont aujourd'hui responsables. Si on considère qu'on a le droit d'insulter et que l'insulte est devenue une liberté d'expression, moi je pose la question suivante. Alors qu'est-ce qu'on reproche à ces personnes? Ils se sont exprimés. Si on considère que l'insulte est une expression et qu'on a le droit de la faire, et bien aujourd'hui nous sommes dans un désarroi total où tout est permis. Moi je dis que je tire la sonnette d'alarme en disant que le sacré doit être respecté. Le sacré des uns et des autres doit être respecté si nous voulons encore continuer à vivre dans une société de coexistence où coexistent et cohabitent des cultures différentes, des convictions différentes.
Et bon, en termes de justement parler à contre-courant de justement de ce sentiment-là de d'islamophobie ambiant, la réaction doit déjà venir de la part de la communauté.
Écoute, la communauté musulmane, c'est vrai, alhamdoulilah, a été mobilisée. Il faut dire que les musulmans, quand on les appelle, ils sont là. Ils nous ont habitués à répondre en présent. Celui qui dit que les musulmans ont démissionné, il leur fait un faux procès. Celui qui dit que les musulmans ne sont pas là au rendez-vous, il, malheureusement, c'est lui qui n'est pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, encore une fois, on était quelques 1500 personnes entre ceux qui sont venus par autocar. Il y avait exactement 13 autocars. Vous de Roubaix, tabarakallah, vous avez envoyé 3, Tourcoing 2, Vinavdesk 2, Mesil Imen 2, Manson Barol 1, un grand d'ailleurs, sans pète, donc 2, l'équivalent de 2, Ouazzam, l'île Ouazzam, l'île Belfort, Enam Beaumont, et puis les voitures n'en parlent pas, donc, alhamdoulilah, les musulmans, quand ils sont mobilisés, ils répondent présents. Mais charge aussi, charge à ceux qui les mobilisent, il faut qu'ils soient dignes justement d'être suivis. Moi j'estime qu'aujourd'hui la Ligue islamique du Nord a honoré son engagement vis-à-vis des musulmans, donc il a lancé cet appel le lundi exactement quand on était sur place. M. Segrouni Mohamed, responsable de l'UIF régional, M. Hamoudi Rachid, directeur du centre de la mosquée l'Iman, et moi-même on était là, à côté bien sûr de notre fameux CRCM. Les musulmans, on les a comptés, ils dépassaient pas 50 personnes. Il y avait plus de non-musulmans que de musulmans. Il y avait la presse bien sûr, il y avait etc. Mais quand j'étais là, j'ai dit mais non, la manifestation mérite plus que ça. Il faut que les musulmans viennent ici. Sur place, on a pris la décision, nous trois, on a pris la décision de lancer un appel à toutes les mosquées de la région. Ce que nous avons fait le lendemain matin, nous avons réuni les mosquées. Oh, Dieu merci, toutes les mosquées ont répondu présent. Moi, je pense qu'il faut saisir ce genre d'occasion pour exprimer, certes, l'émotion qui est la nôtre et la tristesse qui est la nôtre, mais aussi, au-delà de ça, un s'inscrire dans une démarche éducative. Et on a profité des vacances de Pâques pour, bien sûr, partir avec nos enfants, pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est que Notre-Dame de Lorette. Sur place, je me suis concerté avec les responsables de la Ligue islamique du Nord et j'ai avancé l'idée d'une journée de mémoire. Le premier vendredi du mois d'avril de chaque année, on se retrouve justement à Notre-Dame de Lorette pour dire, pour en quelque sorte expliquer à nos jeunes que, en fin de compte, voilà nos ancêtres, voilà ce que nous avons apporté à un moment donné à ce pays que nous aimons beaucoup. Et que les jeunes, justement, soient à la hauteur de leurs ancêtres, de leurs grands-parents qui ont contribué à la libération de ce pays.
Mais en fait, moi, je, bon, effectivement, sans la mobilisation, on ne doute pas, mais pour avoir discuté avec un petit peu des frères et sœurs qui se sont déplacés ou d'autres qui n'ont pas pu, il y a quand même un sentiment de, pour l'avenir, si je puis dire, un sentiment de pessimisme quant à la possibilité de faire changer les choses, de faire inverser la vapeur. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup, mais en tout cas, on a du mal, puisqu'on se fait globalement, si je puis dire, les insultes viennent de tous les côtés, même du monde politique, quand on le voit à l'étranger en l'occurrence. Voilà, comment, je ne dis pas qu'il faut rien faire non plus, mais comment on peut justement à un moment rendre peut-être de l'espoir
Oui, c'est très simple. Le fait de ne rien faire, on risque rien. Donc, au moins faire quelque chose, on a de deux choses l'une. Soit donc on a une chance sur deux, soit qu'on aboutit, soit qu'on n'aboutit pas. Hein? Soit que notre voix soit entendue, ou soit qu'elle ne soit pas entendue. Soit qu'on pèse, soit qu'on ne pèse pas. Mais le fait de ne rien faire, donc voilà, on continue à subir, et voilà, et à dire qu'en fin de compte, on ne va pas peser, personne ne nous écoutera. Moi, c'est ça le fatalisme, hein? Mm-hmm. Et moi, je n'ai pas été élevé dans le fatalisme, et je ne peux pas, justement, sombrer dans le fatalisme. Rien n'est définitif. Rien n'est prédestiné en quelque sorte. Notre destin, si je peux m'exprimer ainsi, notre destin, nous l'avons entre nos mains. C'est ce que nous faisons, nous, de notre destin. Mm-hmm. Et bien, aujourd'hui, celui qui nous insulte, on doit lui répondre, bien sûr, de la façon la plus élégante qu'elle soit. Dieu merci, la démocratie, les lois de ce pays nous permettent beaucoup de choses, nous permettent de crier fort, très fort, notre scandale et notre tristesse. Mais rester les bras croisés en disant qu'on ne va pas peser, eh bien on ne va pas peser, on continue justement à subir. Moi je dis que les musulmans doivent bouger. Et c'est à eux de définir comment. Et puis ils doivent bouger massivement. Nous avons 500 000 musulmans dans la région. J'aurais bien aimé que 100 000 soient à Notre-Dame de Lorette. Je rêverai de ce jour. Et d'ailleurs, il arrivera un jour justement où 100 000, 200 000 musulmans viendront justement dire à leurs ancêtres, à leurs grands-parents, nous sommes là, nous sommes vos petits-fils, nous sommes vos fils, et on va continuer, on va prendre le flambeau et continuer le chemin. Et de toute façon, moi je peux pas comprendre ceux qui disent qu'on fait rien, qu'on pèse pas, alors autant rester chez soi et les bras croisés.
Une petite chose. Bon, on a un petit peu déploré les interventions quelques peu timides des hommes politiques. En d'autres circonstances, en d'autres lieux, il y aurait peut-être eu plus de motivation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est déplorable.
Bien sûr, c'est déplorable. Même s'il y a un déplacement du ministre des Anciens Combattants le lendemain, donc dimanche après-midi, j'étais là. Donc c'est quand même un ministre qui est déplacé, mais j'ai dit sur le plateau de France 3 le lundi qu'on aurait bien aimé que le chef de l'État se déplace, et d'ailleurs il va venir le 24 avril.
Oui, bon, autant venir au mois de juillet, je veux dire, le 24 avril, on est à la fin du mois, enfin.
Oui. Bon, c'est vrai, puis il a reçu hier le CFCM, il a reçu le CRCM. Bon, c'est un geste, il faut dire qu'il est venu un peu tard, mais quand même c'est un geste. Mais nous continuons à dire que nous les musulmans, nous regardons de plus près, nous suivons de plus près ce qui se passe dans notre pays. Quand notre communauté est touchée, on voit que la mobilisation, elle est très très importante. De président de la République en exercice sont descendus dans la rue, notamment François Mitterrand, Jacques Chirac sont descendus pour bien sûr défendre une cause que nous défendons nous aussi, hein, pour exprimer justement cette position, cette dénonciation de l'antisémitisme en France, nous disant qu'il y a de l'antisémitisme certes. Mais à côté de l'antisémitisme, il y a du racisme musulman. Il y a du racisme vis-à-vis de l'islam. Parce que l'islamophobie, c'est un mot que je n'aime pas. Il y a du racisme tout court vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la religion musulmane. Et que ceux qui dénoncent l'antisémitisme ne doivent pas être sectaires, ne doivent pas être exclusifs. Et doivent dénoncer tous les racismes qui touchent toutes les communautés. Aussi bien la communauté juive de France que la communauté musulmane de France, que la communauté catholique et les autres. Il ne faut pas qu'on soit sélectif en matière de dénonciation.
Bon, juste une dernière chose. Bon, malheureusement, cette situation, c'est la deuxième l'année dernière, presque jour pour jour, en fait, il y a eu profanation aussi de ce même cimetière. On se dit à un moment, est-ce que le parce qu'on a eu quand même les responsables de la première profanation qui ont pris quelques mois, il me semble, de prison. On voit que dans la symbolique, ça n'a pas empêché d'autres de réitérer le geste.
Oui, je pense que cette fois-ci, comment mais ils paieront, hein, ils paieront parce qu'il faut dire, même le ministre de la Justice n'a pas été épargné dans les
inscriptions. Effectivement, oui.
Voilà, donc il va. Donc je fais confiance à la justice, elle va justement punir et punir sévèrement les coupables. Mais au-delà de ça, il faut quand même prévenir. Quand on est sur place, on voit que il n'y a pas de, il y a aucun moyen de sécurisation en quelque sorte du site. Il faut que le site soit sécurisé. Je l'ai dit, j'ai lancé un appel tout à l'heure. Il faut que le site soit sécurisé. Il faut que des caméras de surveillance soient justement déclenchées, notamment la nuit. Il faut un grillage ou quelque chose, un entourage soit fait. Il ne faut pas qu'on laisse les choses comme ça. Il faut respecter justement ces personnes qui dorment là-bas, qui se reposent là-bas. Et moi, je pense que si on est appelé, nous les musulmans de ce pays, à contribuer, je l'ai dit haut et fort, nous contribuerons sans aucun problème. Mais il faut quand même trouver, faire quelque chose. Il faut faire quelque chose.
Bien. Je ne sais pas, Abdelkader, tu veux peut-être ajouter quelque chose au Cheikh Omar Hassan ?
Je remercie la Ligue islamique du Nord. Il y a Omar Lassar en particulier pour tout ce geste, tous ces efforts pour justement redorer le blason de cette communauté et prendre la défense des morts, mais aussi des vivants, parce que la Ligue est toujours là pour défendre tous les êtres humains et les musulmans en particulier dans notre pays. Barakallahu fikoum.
Oui, Hassan dit tout à l'heure que ces imbéciles qui sont venus la nuit, le message était adressé aux vivants, hein, parce qu'on ne peut pas être raciste vis-à-vis d'un mort. Donc ils sont allés à travers les morts nous envoyer un message. Mais le message, nous l'avons, alhamdoulilah, il y a une transformé, donc en mobilisation, et nous sommes allés sur place pour dire voilà, bah, vous nous avez appelés, voilà, nous sommes là, nous sommes présents autour de nos soldats, et nous vous disons que vous ne passerez pas, tout simplement.
Inch'Allah, Barakallahu fik. Barakallahu fik pour déjà du témoignage et donc de l'appel. Voilà, donc je rappelle Amal Asman, le recteur de la mosquée de l'île sud, pour la Ligue. Barakallahu fik pour l'appel.
Salam
alaikum. Wa 21h passé de quelques, d'une demi-heure, il nous reste une demi-heure d'émission. Fallait de juste une petite courte pause et on se retrouve tout de suite après, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà l'émission La Prophétie, 21h pardon, de passer de 40 minutes, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Petite information, Abdelkader, avant que tu donnes ben vas-y,
ouais.
C'est demain.
Non, ouais, c'est demain, 12 avril, on est le 11 aujourd'hui. Donc demain, samedi 12 avril, à 14h45, conférence donc mensuelle donc avec la Sahela, qui est président de la Ligue musulmane au niveau national, responsable de la Ligue au niveau européen et président de l'association ML. Donc elle fera une petite conférence destinée aux femmes sur la thématique les signes de l'amour d'Allah. Il y aura un débat, un petit goûter. C'est une conférence mensuelle. Et du Maghreb à Aïcha, ce sera l'imam Youssef, donc l'imam de la mosquée, un des trois ponts, qui fera un dars, et c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, par rapport à cette conférence demain. Dimanche aussi, on a l'Asfar qui fait une conférence.
À l'Épale,
oui.
Parce que Bilal à l'Épale, donc on va faire une intervention aussi de Amal Asfar. Et toi, Hassan, qui a terminé un trois ponts encore la semaine prochaine, vendredi, entre le Maghreb et Aïcha. Donc, Mosquée Rahman, personne de Mosquée des Trois Ponts, sur le thème les jeunes face aux tentations. Donc voilà, c'est vendredi prochain, je suis là, vendredi 18, entre le Maghreb et l'Aïcha. Bien, pour les minutes qui nous restent, on l'a été sur le thème suivant, sur le respect des lieux. La vision qui est bonne dans le Coran sur le respect des lieux, des lieux de culte, ou c'est des lieux comment je peux
des lieux sacrés, des lieux sacrés, voilà. Sacrés aux yeux des autres, hein, donc puisqu'on est, c'est d'actualité,
effectivement,
et nous on doit toujours nous baser sur notre livre, hein, la lumière de Dieu, sur le Coran. Il y a un verset dans la sourate le pèlerinage, le verset 40, qui dit: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ce verset est fondamental. Il nous enseigne la valeur et l'importance du respect des lieux sacrés, ce respect que le musulman doit avoir en permanence au nom de Dieu, donc pas au nom d'une stratégie philosophique ou politique, pas parce que c'est une nécessité sociale ou historique, non, c'est une aqida, c'est une conviction. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce verset? Il dit que, malheureusement, sur terre, il n'y a pas que la paix, parfois il y a des conflits. Et parfois, le mal prend le dessus sur le bien, les méchants prennent le dessus sur les gentils. Et Dieu nous dit que cela ne doit pas durer. Cette situation où l'injustice, l'intolérance domine, ne doit pas durer. Les opprimés, ceux qui ont perdu non pas la guerre mais la bataille, doivent faire des efforts, pourquoi? Pour réagir et combattre cette injustice. Comme c'est le cas, on va toujours rester dans l'actualité, la France a été envahie par un ennemi qui est sans pitié. Pendant quelques années, la résistance elle s'est organisée, et à la fin, alhamdulillah, grâce à l'aide étrangère et grâce à l'aide de l'intérieur, la résistance, nous avons réussi à quoi? À repousser ce mal, cet ennemi, cette injustice. Ça s'appelle dans le Coran sunnatu tadafu. C'est une loi de Dieu, une loi sociale, où les conflits, entre autres, ont pour objectif de quoi? De réparer quelque chose qui a été détruit. C'est pour cela que la guerre est autorisée à certains moments. Et dans ce cas précis, Dieu dit qu'il faut se battre. Pourquoi? Pour préserver. Pour préserver des acquis. Et l'acquis le plus important que nous devons préserver, c'est justement le droit qu'a l'être humain d'être différent, d'avoir une croyance qui est différente de celle des autres, le droit de pratiquer cette croyance à des moments, donc des jours, des heures, mais aussi dans des lieux, dans des endroits. Et qu'est-ce que dit le Coran? Il dit que si ce n'était justement le fait que Dieu autorise à l'être humain de se battre, de se défendre, pour pouvoir faire respecter ce droit, jouir de ce droit, qu'est-ce qui arriverait sur terre? La route des maths serait détruite, des monastères, des églises, des synagogues et des mosquées dans lesquelles le nom de Dieu est évoqué en permanence. C'est-à-dire la volonté de Dieu est qu'il y ait en permanence sur terre des lieux de culte où les êtres humains se retrouvent pour adorer leur Seigneur à leur manière, de manière différente. Chacun pense que c'est la sienne la meilleure, mais ce qui compte à nos yeux, nous musulmans, c'est que ces personnes ont le droit, car c'est Dieu qui leur a donné ce droit, d'adorer, d'évoquer Dieu à leur manière dans des lieux de culte. Et notre devoir en tant que musulmans, c'est de les protéger. Alors Dieu ne le demande pas, il ne dit pas dans le Coran de ne pas détruire ces lieux de culte, de ne pas les agresser, de ne pas les faire disparaître, parce que c'est une évidence. Le musulman par nature est tolérant, parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu justement qu'il y ait cette divergence. Mais ce que Dieu nous demande dans ce verset, c'est de nous battre pour protéger les lieux de culte des autres. Et ce qui est magnifique dans ce verset, c'est que Dieu ne nous demande pas de nous battre pour éviter que soient détruits, rayés de la carte, les monastères, les couvents, les églises et les synagogues, uniquement, et les mosquées, uniquement. Dieu ne nous demande pas de défendre les mosquées uniquement, mais il nous demande de défendre les autres lieux de culte, les autres religions. Et il commence par justement les monastères, les synagogues, pour finir avec la mosquée. Il a l'air de dire, ça doit être un souci permanent pour nous musulmans, de quoi? De permettre aux autres d'être à l'aise dans leur adoration, de ne pas les perturber, de ne pas les déranger, c'est une évidence, mais de les protéger, de les défendre, de se battre politiquement, et si c'est nécessaire, militairement pour empêcher les despotes, les gens injustes, les méchants, de s'attaquer à quoi ? De s'attaquer à cette liberté hein, de culte, liberté d'avoir des lieux de culte. Donc, l'islam, le Coran, que certains veulent interdire, enseigne non pas la tolérance, mais enseigne l'effort pour que la tolérance perdure et ne disparaisse pas. Le Coran enseigne aux musulmans d'être soucieux. De quoi ? De la pérennité des autres lieux de culte. Et non pas, comme les détracteurs de l'islam voudraient le faire croire, la destruction des autres lieux de culte. Regardez. La route d'Imad Sawamero, c'est la volonté de Dieu que les autres lieux de culte ne disparaissent pas. Et le musulman est l'instrument que Dieu utilise justement pour que ces lieux de culte soient préservés et ne disparaissent pas. C'est pour ça que beaucoup de savants interdisent aux musulmans de prier dans les autres lieux de culte autres que la mosquée. Non pas parce que la prière n'est pas valable lorsqu'elle est accomplie dans ces lieux de culte, mais uniquement, regardez ce que disent nos savants musulmans depuis toujours, uniquement pour éviter que des musulmans mettent la main sur cet endroit qui a servi de mosquée à un moment donné. Pour éviter que des musulmans, avec le temps, considèrent que ce lieu-là, à tout compte fait, doit appartenir aux musulmans puisque les musulmans y prient. Pour ça que certains savants, ils y mettent comme ça, ils disent, par souci uniquement de préservation hein, de ce lieu de culte. Alors bien entendu, si ces fidèles non-musulmans se convertissent à l'islam, ben, et, le lieu de culte s'islamise en lui-même, et c'est ce qui est arrivé dans la plupart des pays non-musulmans qui ont embrassé, adhéré à l'islam. Les populations, hein, dans leur élan de conversion, ont converti leur maison, leur église, leur synagogue. Mais le verset 40 de la sourate, le pèlerinage, est là pour nous dire c'est pas qu'il ne faut pas s'attaquer aux cimetières, il ne faut pas s'attaquer aux églises, aux synagogues, aux couvents, aux pagodes, aux temples, uniquement, parce que ça, c'est une évidence, mais il faut surtout les préserver, les protéger, quitte à y laisser sa peau. Vous entendez ? Quitte à y laisser sa peau. Inna Allah ala qawiyun aziz. La suite du verset, si vous défendez, hein, vous secourez la religion de Dieu, Dieu vous apportera hein, et celui qui va dans le sens justement de cet enseignement divin, Dieu sera à ses côtés, lui portera secours. Inna Allah la qawiyun aziz, Dieu est puissant, Dieu est fort. Le musulman doit être puissant, doit être fort pour non pas préserver les mosquées, mais pour préserver les autres lieux de culte et la mosquée. Parce que dans les autres lieux de culte, les gens y adorent Dieu en toute sincérité. Et il faut respecter la sincérité des êtres humains. Seul Dieu jugera entre les créatures. Fantadero innamontadero. Nous devons patienter. Tous les êtres humains doivent attendre le jour du jugement, le jour où Dieu nous éclairera quant à nos divergences sur terre. Mais nos différences, nous devons les gérer avec quoi ? Avec cet esprit de tolérance, mais aussi cet esprit d'engagement. On doit être engagé, solidaire avec tous ceux qui pensent de cette manière pour justement barrer le chemin aux intolérants qui ne veulent pas uniquement s'attaquer aux mosquées ou aux cimetières musulmans, mais d'ailleurs ils s'attaquent à d'autres lieux de culte. Hein, combien d'églises, de synagogues, de cimetières juifs, de cimetières chrétiens ont été aussi agressés, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on a peut-être en ce moment le monopole hein, des agressions verbales et physiques, mais les autres ont eu aussi leur dose et continuent à avoir leur dose. Mmh. Et malheureusement, peut-être que ça continuera encore. Mais en tout cas, comme disait tout à l'heure, sur Omar Nassar, on ne doit pas rester les bras croisés. On doit tous se coaliser pour faire régner la tolérance, la justice, la fraternité humaine, hein, qui doit nous pousser à considérer l'autre comme étant un être humain comme nous, avec tous ses droits inaliénables. Parce que nous considérons que ces droits-là, pour nous musulmans, sont avant tout des droits divins. Hein, c'est Dieu qui a voulu que les êtres humains croient différemment, que les êtres humains aient des lieux d'adoration qui sont différents de nos lieux mosquées. Mais il n'y a pas que des différences, il y a aussi des points de convergence. Regardez, yuzkaru fiha ismullahi kathiran. Dans tous ces lieux de culte, le nom de Dieu y est évoqué en abondance. Ce sont des lieux de culte particuliers, avec leurs différences, mais ils ont quelque chose de commun qui s'appelle l'adoration de Dieu. Donc c'est un verset qui nous pousse à quoi ? Nous pousse non pas uniquement à l'acceptation et la tolérance, mais qui nous pousse au combat pour la tolérance et l'acceptation, qui nous pousse à la défense de ceux qui subissent justement des injustices, ceux qui sont opprimés parce qu'ils sont différents. Allah
Alam. Maclou fait que vous entendrez sur cette explication de ce verset 40 sur la le pèlerinage, le hajj. Donc, Maclou fait que je suis Hassan. Al-Qadha, tu voulais rajouter quelque chose?
Pas grand chose, c'est bon, on se retrouve inchallah la semaine prochaine.
Ouais, juste
infos.
Ouais, on va terminer par les infos et on va donner le relais à l'émission Safina, hein, qui sont arrivées. Donc vous ne quittez pas le pastel des femmes. Jusqu'à 23h, vous avez l'émission sur la culture du chant religieux. L'émission Safina par JMF Tourcoing. Oui, bah Hassan, tu vas terminer, hein, donc la semaine prochaine. Parce qu'il y a des trois ponts, Rahman, entre Marla et Aïcha, donc les jeunes face aux tentations.
Le 18 avril.
La semaine prochaine, vendredi prochain, oui. 18, oui. Ah oui, j'ai dit la semaine prochaine, ça commence lundi, ça finit dimanche, ouais, c'est vrai. Vendredi prochain,
c'est long, 18. Une semaine,
ouais.
Même si ça passe vite. Demain, le 12 avril, à partir de 14h45, donc par une conférence à la mosquée des trois ponts, classeur là, c'est réservé aux femmes. Les signes de l'amour d'Allah, donc à partir de 14h45, Inch'Allah, et le soir entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc c'est l'imam qui fera un dars, l'imam Youssef, et là c'est ouvert à tout public. Dimanche, Omar Nassar aussi qui donne une petite conférence à la mosquée, l'épaule de l'épaule
Mosquée
quant à nous, on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine. Mais Farid, je ne sais pas, il m'a fait un demi-tour.
Farid
c'est le technicien, on le précise, mais bon, ça va, il est à la technique.
J'avais dit à Samir qui doit sûrement nous entendre et nous écouter. Donc Samir, on pense à toi, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Amen.